Les voies de service, la suite cette fois-ci. J'y vais tout de suite avec le Devoir et à la une du Devoir ce matin. Les quartiers défavorisés, enfants pauvres des transports alternatifs. Élections fédérales, les villes aubinières et le poids du vote agricole. En Catalogne, demi-victoire pour les séparatistes. Majoritaires au Parlement, les indépendantistes n'obtiennent pas la majorité absolue des voix, écrit Christian Rioux à Barcelone. Frais accessoires, Ottawa appelé en renfort par des opposants. Et puis le point chaud aujourd'hui, sortir la tête haute d'un référendum perdu. C'est Robert Dutrisac qui écrit qu'il y a un an à peine, les nationalistes écossais perdaient le référendum qu'avait mis en œuvre le Scottish National Party avec un score de 47,7% pour le oui. Mais le politologue écossais Michael Keating, ce sont les nationalistes qui ont remporté la bataille. Et puis également à la une, il y a la photo de cette lune magistrale, super lune de sang. Les astronomes amateurs de Montréal ont assisté à ce spectacle céleste rare et lumineux hier soir, celui de cette éclipse lunaire totale. Cette lune de sang survenant au moment même où ce satellite naturel se trouvait à son point le plus rapproché de la Terre, d'où le nom de super lune. Vous le savez peut-être, mais la prochaine éclipse de lune aura lieu en 2033. Alors ce soir, il y aura un autre débat dans le cadre des élections fédérales où sont attendus les trois principaux leaders. Un débat qui sera donné en français et en anglais à Toronto. Et c'est Monk Debates qui va l'animer. Et cet animateur-là a dit « Moi, je veux plus que des slogan. Le président de Monk Debates, Rudyard Griffiths, sait bien que les politiciens préfèrent ne pas trop s'éloigner de leurs notes, mais la planète, je fais une erreur, hein, Monk Debates, ce n'était pas du tout le nom de la personne qui va animer, mais bien Rudyard Griffiths, président de Monk Debates, excusez-la, qui sait bien que les politiciens préfèrent ne pas trop s'éloigner de leurs notes, mais la planète est à la croisée des chemins en raison des défis que posent des pays qui cherchent à prendre plus de place sur la scène internationale, comme la Chine et la Russie, et de la pire crise des réfugiés en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, le temps est venu pour les chefs fédéraux d'expliquer leurs principes de base sur les questions de politique étrangère, car je précise que le débat de ce soir ne portera exclusivement que sur la politique étrangère. Je le dis alors que mon amie Gisèle Lalande vient d'entrer dans le studio dans quelques minutes. Elle interviendra ici sur les ondes. Bonjour Gisèle, ça va bien?
Très bien.
On abordera quelques sujets, ou peut-être un seul, en politique internationale, en actualité internationale. Elle nous en parlera elle-même. Pour le moment, Gisèle, moi je retourne à ce papier de Mike Blanchfield à Ottawa, de la presse canadienne, qui s'exprime encore une fois sur ce débat de ce soir, qui sera séparé en six parties, durant lesquelles deux des trois chefs s'affronteront durant 7 minutes, et le troisième chef entrera dans l'arène pour 5 minutes supplémentaires. La formule du débat obligera les chefs à débattre des fondements de leur politique, parfois dans de longs échanges à un contre un, et à dépasser des slogans partisans qui seront épuisés après 4 ou 5 minutes, si ce n'est plus tôt, croit l'animateur. Jamais un débat électoral canadien n'a porté uniquement sur la politique étrangère. C'est donc une première ce soir. Je suis toujours dans les pages du Devoir. Je vais aller voir dans les éditoriaux ce qu'on nous réserve. Il est encore question de cette campagne électorale et il est question de Madame Anglade, vire-capot, comme l'appelle Antoine Robitaille, qui la qualifie carrément d'opportuniste, et c'est d'ailleurs le titre de son éditorial ce matin. Monsieur Robitaille qui écrit « Les vire-capots inspirent rarement les meilleurs sentiments ». En 2008, indigné par la décision de deux de ses collègues de passer chez les libéraux, l'adéquiste Simon-Pierre Diamond avait lancé « Les gens qui se donnent au plus offrant, on en voit souvent au centre-ville tard le soir, mais au Parlement, des gens qui font le trottoir, nous en voyons très rarement ». Madame Anglade est depuis longtemps une adepte de l'opportunisme, nous dit M. Robitaille. En septembre 2005, le journal Les Affaires pose cette question à plusieurs jeunes personnalités. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu? Réponse de Madame Anglade, lorsque l'occasion se présente, si on l'analyse trop, elle finit par passer. Alors il faut la saisir et après se demander comment on va faire pour que ça fonctionne. Ça nous donne bien une idée, effectivement, du type de personnalité de Madame Anglade. La semaine dernière, dit M. Robitaille, elle saisit si vite l'occasion qu'elle ne prit même pas le temps d'en avertir M. Legault. Ce dernier, d'ailleurs, en fut blessé. Il conclut que son ancienne comparse était devenue libérale, car c'est de cela dont il s'agit. Elle a quitté l'équipe de la CAQ pour devenir libérale, alors qu'elle a à un moment donné même dirigé la CAQ. Et elle est devenue, donc il pense, M. Legault, qu'elle est devenue libérale parce que Philippe Couillard lui avait promis un ministère. Elle-même fille de ministre, son père fut responsable des travaux publics sous Jean-Bertrand Aristide. Madame Anglade, vendredi à LCN, nia de manière vigoureuse mais bien peu crédible qu'il y ait une entente à ce sujet entre elle et M. Couillard. Pourtant, quand même, on sait bien que c'est souvent comme ça que ça se passe. L'opportunisme n'explique toutefois pas tout. Madame Anglade a indiqué cette fois de manière crédible que son départ était motivé par le rejet du virage nationaliste de M. Legault. Notamment ce pacte bancal avec les immigrants proposé en mars qui comprenait un test d'identité. Et cela nous ramène à un problème fondamental. En 2011, M. Legault a fondé sa coalition en décrétant la fin de la question nationale. Depuis, constamment assis entre deux chaises, il s'est trouvé contraint de se positionner un peu d'un côté nationaliste et un peu de l'autre fédéraliste. Mais cela semble provoquer une décoalition sans avenir. À venir dans quelques secondes, un papier sur les héritiers de la politique. On est toujours dans le devoir. C'est signé Stéphane Baillargeon ce matin qui nous dit que si les libéraux fédéraux l'emportent à la mi-octobre, si les péquistes prennent le pouvoir aux prochaines élections québécoises, on va se retrouver avec une belle bataille des héritiers. Parce que Justin Trudeau, d'un bord, et Pierre-Carl Péladeau, de l'autre, deux fils de Pierre d'ailleurs, on dit bien que bon chien tient de race, alors quoi de plus normal que les enfants imitent souvent les parents en toutes choses, y compris les professionnels. Il y a des médecins de mère en fille, des plombiers de père en fils et des dynasties circassiennes. Dans ma famille, dit Baillargeon, il n'y a que des enseignants ou presque, et même des profs qui forment des profs. Pas besoin de tout savoir de la sociologie de Pierre Bourdieu pour sentir la persistance de la reproduction sociale des élites. Les dynasties s'avèrent encore plus fortes en affaires et le capitalisme familial existe depuis des siècles. La revue Forbes le répète et le prouve sans cesse, le moyen le plus courant de devenir riche, et très riche, c'est l'héritage. Le gala des prix Gémeaux présenté il y a quelques jours a fourni un tas d'exemples des rapports familiaux qui façonnent nos propres industries culturelles. Les enfants d'eux, les parents d'eux, trônaient partout sur scène, dans la salle, jusque derrière la caméra. Notre showbiz laisse croire que le talent est héréditaire. Je répète la phrase, notre showbiz laisse croire que le talent est héréditaire. Cela commençait évidemment avec Véronique Cloutier, l'héritière de qui on sait. Son jeune fils a présenté un trophée avec la mère du co-animateur Éric Salvaille. Une autre récompense a été distribuée par Karine Vanasse, compagne de Maxime Rémillard de Remstar Corporation, propriétaire de V. Et Caroline Davernas, fille de deux comédiens. Les enfants de la télé sont partout à la télé. Dit encore M. Baillargeon dans Le Devoir, PKP, qui accompagnait sa femme Julie Snyder, exacerbe la tendance dans le domaine de la culture et des communications, comme son passage en politique confirme la volonté impériale des médias dans notre monde hyper connecté où la notoriété s'enfante elle-même. Bon, alors on continue. Tiens, le gala a été diffusé à la télé d'État, placée sous la direction de Dominique Chaloux, fille de Francine, attachée de presse de Céline Dion, nièce de Suzanne Lévesque, femme du ministre Pierre Arcan, ancien PDG de Corus Québec et donc belle-sœur de Paul de la radio matinale. À Montréalaise, au 98.5 FM. Faut-il vraiment en rajouter en journalisme? Les papas des deux plus célèbres animatrices de journaux télévisés du Québec, Pascal Nadeau et Sophie Thibault, ont eu des carrières exceptionnelles au service de l'information de Radio-Canada. Je me tourne forcément vers Gisèle. Est-ce que papa était à Radio-Canada, Gisèle Lalande?
Non, absolument pas. Mon père n'était pas dans le domaine des communications.
Du tout. Non, ben voilà, façon, non. Alors, moi
je
non
suis
plus.
Pas la fille de.
Non, moi non plus, absolument pas. D'ailleurs, mon père était assez découragé, merci. Lui qui était boucher de père en fils.
Mais les femmes n'étaient pas bouchères à l'époque.
Non, mais
voyons.
C'est ça à l'époque. Ah, bah oui, mais les femmes étaient caissières
au service
de leur mari. Voilà. C'était les femmes qui débitaient, puis c'était les hommes qui débitaient la viande et les femmes qui faisaient. Alors, non, c'est ça. Donc, peut-on s'étonner que les héritiers de magots, de talent et de beauté s'en tirent mieux que d'autres en temps de crise et de disette, se demande Baillargeon pour conclure. Dans leurs entrevues, les auteurs françaises de Fils et filles 2 évoquent le côté rassurant des noms connus, peu importe le domaine, les communications ou la politique, ou les deux en même temps. Elles parlent de la puissance du nom devenu un patrimoine, comme Trudeau, par exemple, ou Pelado, mettons. Gisèle Lalande, vous nous amenez en Espagne, en Catalogne plus précisément.
Oui, plutôt en Catalogne.
Plutôt en Catalogne d'ailleurs qu'en Espagne, mais pour l'instant c'est encore en Espagne. J'étais voilà. Encore, on s'entend, mais alors dites-nous tout.
Alors il y avait des élections hier en Catalogne. Bon, des élections, et je pense qu'il faut le préciser, c'est qu'il était un petit peu un référendum dans la mesure où on voulait tenir un référendum en Catalogne en novembre 2014. Le gouvernement central de Madrid l'avait interdit en allant jusqu'en cour constitutionnelle, l'équivalent de la Cour suprême. Alors, ce qu'on faisait hier, finalement, c'était une élection référendaire. Il y avait deux partis, plus ou moins. Il y avait un camp du oui, disons, une coalition de partis pour le oui, une coalition de partis pour le non. Bon, le résultat est vraiment très serré. Le camp du oui a gagné 72 députés sur 135, ce qui leur donne une majorité, bien que la coalition soit assez faible, puisqu'on a un parti de centre-droit et un parti d'extrême-gauche dans la coalition du oui. Mais ce qui est le plus délicat, c'est qu'ils n'ont obtenu que 48 % des voix. Ce qui leur donne pas une force de négociation très, 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 très grande. J'aimerais qu'on commence peut-être par regarder les unes. Je me suis amusée à aller chercher des unes des journaux. J'ai trop de choses, hein, ce matin, Clotilde.
C'est
me
pas
coupez
grave.
Quand
d'accord.
Le temps est terminé, vous me coupez, il n'y a pas de problème. Alors, je suis allée voir les unes d'abord de dimanche, le 27 septembre, jour d'élection, des unes des journaux catalans. Mon catalan est faible, mais j'arrive à comprendre. Alors, sur le quotidien Ara, qui veut dire maintenant, on fait justement un jeu de mots avec le titre du quotidien, Ara Decidim, une immense une. C'est à peu près tout ce qu'il y a sur la une du journal, ce qui veut dire aujourd'hui, maintenant, nous décidons. Et il y a un tout petit bout de l'éditorial en première page, et on voit très bien la position, évidemment, de ce journal-là. On écrit des élections qui, contrairement à ce que pouvaient dire les prophètes de malheur, n'ont pas provoqué et ne provoqueront pas non plus une fracture sociale. Au contraire, à partir de cette date, traduction approximative, là. C'est toujours difficile quand on traduit
en
direct.
Oui, c'est sûr.
De cette date historique du 27 septembre, en sortira un pays plus fort, plus mature et avec plus de cohésion et plus démocratique. Alors ça, c'est le quotidien Ara, un quotidien catalan. El Punt Avui, je ne sais pas comment le prononcer. El Punt Avui, ça veut dire le point aujourd'hui, finalement, le point du jour. Même type de une. Immense titre. Avoui, si. Aujourd'hui, c'est oui. L'heure de vérité. Ici aussi, on a un tout petit bout d'éditorial en une, la suite à l'intérieur des pages du journal. Et on a ensuite l'Avant-Garde, qui est un journal qui a son édition en catalan et une édition en espagnol.
Okay.
Je n'ai pas trouvé la une de la version catalane, mais ça devait être la même, sur la une espagnole. Là, c'est plus neutre, un peu. L'avenir de la Catalogne se joue aujourd'hui. Alors, une beaucoup, beaucoup plus neutre, mais on voit que les journaux catalans, évidemment, étaient tous ensemble pour le oui, disons,
et assez clairement. Et c'est vrai, ça, que ça se jouait vraiment? Parce que moi, dans ce que j'ai lu, entre autres, dans les journaux ce matin, montréalais, d'ici, aussi bien de voir, tout le monde dit oui, mais quoi. C'est pas sûr que ça s'est joué vraiment hier.
Non, évidemment, avec le résultat, on a eu les réactions aussi, déjà les premières réactions du gouvernement central à Madrid et... rien n'est joué,
rien
ça c'est certain.
Rien n'est joué, c'est sûr.
Et je pense que pour comprendre un peu mieux, c'est intéressant de retourner un petit peu en arrière, où j'ai relu des reportages qui avaient été écrits à la veille du référendum. Et on peut commencer avec un article de l'envoyé spécial de Libération à Barcelone, François Musso,
ouais.
Qui écrivait un article « L'opportunité du siècle pour la Catalogne ». Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point les arguments et du oui et du non vont nous rappeler énormément de souvenirs. Hein. La Catalogne, c'est 7,5 millions de population, ouais. 5 millions d'électeurs. C'est pas
incroyable.
Le Québec, mais
non,
vous
non.
changez le mot ouais. Madrid par Ottawa, Québec
oui,
par
oui,
Catalogne,
oui, oui,
et ça fonctionne.
Fait, tout à fait.
Alors, dans le camp du oui, les arguments, je reprends l'article de François Musso, je cite, « Les premiers, ceux du oui, évidemment, expliquent que Madrid les ignore et a fait d'eux des citoyens de seconde zone. Ils estiment la séparation inévitable depuis qu'en juillet 2010, le tribunal constitutionnel, la Cour suprême, donc, a réduit à la portion congrue le nouveau statut d'autonomie de la Catalogne. On cite un des représentants du camp du oui qui dit « L'intransigeance des Espagnols fait qu'on ne peut plus rien espérer d'eux. » Alors ça, c'était le camp du oui. Du côté du non, on dit à l'opposé, les seconds, ceux du non, mm-hmm. s'arrachent les cheveux face à ce qu'ils qualifient d'hégémonie nationaliste. Dans la rue, la société catalane est sereine, en majorité bilingue, et ne vit pas dans le conflit vis-à-vis de l'Espagne. Mais le régime mis en place par Artur Mas, qui est le chef du parti du oui, évidemment, mm-hmm. attise la surenchère souverainiste et attribue tous nos malheurs au soi-disant diktat de Madrid. C'est ridicule. Ça, c'était une citation d'un des, du vice-président, finalement, du camp du non. Du côté du pouvoir central à Madrid, Madrid-Ottawa, mm-hmm. oubliez jamais, on est très dur. Je cite l'article de Musso sur l'échiquier politique, la droite au pouvoir. À Madrid, évidemment, les conservateurs du Parti populaire qui gouvernent à la majorité absolue depuis la fin de 2011, c'est la force qui est la plus offensive. On dit non seulement à l'indépendance, qui selon eux est une absurdité, mais à toute négociation avec la Catalogne qui semble impensable. Je cite l'article, le ministre de la Défense, Pedro Morenés, n'a ainsi pas exclu mi-septembre la possibilité d'une intervention militaire si la légalité n'était pas respectée. Plus prudent, le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, évoque tout de même avec fréquence le recours à l'article 155 de la Constitution lui permettant de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Alors, on voit, le ton est très, très dur.
Ah oui, je lisais aussi. Ben non, en fait, j'écoutais ça à un moment donné, Madrid, alors mettons Ottawa, qui disait, ils vont faire quoi de toute façon si à un moment donné ils sont indépendants? L'armée, autant que je sache, elle est espagnole, elle n'est pas catalane. Ouf, ça glace le sang quand même.
C'est
là, quand
très,
on
très
commence
dur.
À parler.
Ça, oui,
c'est
les
dur,
arguments,
c'est,
parce la, que... la relation est très, 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 très
oh
dure.
Oh là là. Voulez-vous qu'on passe à un autre sujet?
Je voudrais simplement qu'on regarde très rapidement, peut-être,
d'accord.
si on a le temps, les
oui,
unes
bien sûr.
De ce matin.
Oui.
Alors, c'est toujours, j'ai repris à peu près les mêmes
quotidiens.
Le lendemain. L'Avanguardia catalan, le si, là aussi, le oui s'est imposé, le oui a gagné, ouais. donc, à peu près, très gros titre. Avoui au journal catalan, énorme titre,
oui.
Europe écoute,
ah,
Escolta
oui.
Europa. Alors ça, ça veut dire, écoutez, on a gagné, écoutez bien, parce que toute l'Europe,
l'Europe
en entier est contre l'indépendance de la Catalogne. Tandis que quand on va vers les journaux espagnols, on a évidemment un point de vue complètement différent. 52 % des électeurs disent non à l'aventure sécessionniste.
Bon.
Alors, on a retenu, chacun retient ce qu'il veut.
C'est
évidemment,
ça, exactement.
C'est toujours la
là,
même chose.
On a retenu, évidemment, on a retenu le camp du non. Oui.
Et dans El País, qui est le grand, oui. grand quotidien, oui. très, très respecté en Espagne, les indépendantistes gagnent les élections, mais perdent le plébiscite.
Ouais.
Ce qui est à peu près exact, effectivement.
Alors,
c'est
à peu près la réalité.
C'est ça, c'est à suivre. Tout le monde est dans une situation assez délicate et marche sur des œufs.
Ça, c'est fort en Catalogne. Je lisais que même, moi j'adore le soccer, il faut que je vous fasse une confidence, Gisèle, c'est un de mes vices.
Le foot, pas le soccer que vous avez,
bah,
c'est
oui.
le foot.
Moi j'aime le foot, c'est ça. Et puis évidemment, alors mais vous savez qu'avant chaque match du Barça, donc de Barcelone, il y a des messages indépendantistes, on chante l'hymne catalan, c'est fort, parce que s'il fallait qu'ils se séparent, là la grande question c'est, tout d'un coup, l'Espagne perdrait son équipe de Barcelone.
Mais vous avez une de ses meilleures équipes, ce qui serait dramatique, encore plus que les richesses économiques qui partiraient.
Oui, non, oh, c'est oui, ça, oui, exactement. Oui. Alors, un autre sujet peut-être?
Oui, alors, complètement autre chose, puisqu'on va parler un peu par la bande du conflit israélo-palestinien. Oui. C'est un article de Libération du 23 septembre. Le titre, c'est « Abbas à l'ONU, le discours d'un raïs ». C'est Nissim Béhar, qui est le correspondant de Libé à Tel Aviv. Alors, on dit, je cite l'article, de la fin des accords d'Oslo à sa démission, les hypothèses vont bon train sur ce que prépare le président palestinien pour le 30 septembre. On sait qu'en ce moment, c'est l'ouverture de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, ouais, tous les chefs d'État et de gouvernement font leur discours à tour de rôle. Alors, on écrit, selon ses proches, cette allocution pourrait décoiffer le gratin de la diplomatie internationale réunie à New York. D'après les versions circulant à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne et le siège de l'Organisation de libération de la Palestine, Abbas songerait à se retirer de la vie politique. Mais surtout, et c'est encore là qu'on parle d'une bombe, certains laissent entendre qu'Abbas lâchera une bombe en proclamant, voyons, j'ai de la misère ce matin, les accords de paix d'Oslo conclus avec Israël en septembre 1993. Tout le monde se souvient de cette fameuse poignée de main, oui, sur le gazon de la Maison-Blanche Arafat et Rabin. Alors, ce serait donc un tremblement de terre qui marquerait la fin de l'autorité palestinienne qui a été créée pour appliquer les accords. Et il y a une autre version qui circule selon laquelle, dans ce discours, il se contentera simplement de proclamer de manière symbolique la souveraineté de l'autorité palestinienne sur l'ensemble de la Cisjordanie, ce qui serait déjà aussi, ça aussi, une énorme bombe. C'est qu'il ne faut pas oublier que lui est un peu pris entre l'arbre et l'Écosse, parce que la situation est très, très tendue en Palestine, alors il doit plaire un peu à tout le monde. On dit que les deux tiers des Palestiniens estiment qu'Abbas devrait s'effacer. 30% aimeraient voir comme successeur Marwan Barghouti, qui est un personnage très important, une espèce de Nelson Mandela pour les qui est en prison à vie, qui a été emprisonné à vie par les Israéliens. C'est un peu le même
dont on entend rarement parler.
Oui, on en parle très très peu. Faut suivre de près pour connaître ce nom qui circule depuis des années. Là, vous me dites combien de temps il me reste.
Non,
parce que là,
regardez,
je commence à paniquer.
Voilà. Regardez, on a vraiment. Vous voulez vraiment savoir, là?
Oui.
On a encore un bon 5 minutes.
Ah bon, merci. Alors, je vais me
voilà.
calmer un peu.
Il n'y a pas de problème.
Alors, bon, signe du désamour, je continue l'article de la rue palestinienne envers Abbas et l'autorité palestinienne en général. Les manifestations hostiles, non pas à Israël cette fois-ci, mais à Abbas, se multiplient en Cisjordanie. Mercredi dernier, dans le camp de réfugiés de Jenin, où le Hamas règne en maître, des milices armées ont affronté durant plusieurs heures les services de sécurité de l'autorité palestinienne qui tentaient de prendre le contrôle du terrain. Plusieurs personnes ont été blessées. Alors là, on parle de conflits entre Palestiniens. Trois jours plus tard, des centaines de civils ont défilé pour dénoncer la police de l'autorité palestinienne qui avait empêché des jeunes lanceurs de pierres de se rendre devant les points de passage vers Israël à l'occasion d'une journée de la colère. Il y en a souvent qui avait été organisée le 18 septembre. À Bethléem, une ville qui est habituellement assez calme, 300 à 400 jeunes ont attaqué le siège du sultan, le pouvoir de l'autorité palestinienne. Les policiers ont tenté de les contenir en matraquant à tout va. Lorsqu'ils ont été débordés, leurs collègues cagoulés et habillés en civil ont ouvert le feu à balles réelles. Là, c'est pas, je rappelle, c'est pas les Israéliens qui ouvrent le feu, mais c'est des Palestiniens sur des Palestiniens. Les jeunes criaient « Abbas, chien des Américains et des Israéliens, quand est-ce que tu dégages? » Alors donc, on conclut l'article en disant « En montant à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le raïs, Mahmoud Abbas, aura sans doute tous ces éléments en tête, toutes ces tensions. » Il sera également conscient que la situation est bloquée puisque Netanyahou n'envisage pas sérieusement une reprise du processus de paix, encore moins le gel de la colonisation et le retrait des territoires occupés. Alors, c'est encore une fois une situation complètement bloquée. Et à surveiller le discours de Abbas, pour lui, où la situation devient de plus en plus dure, entre d'un côté un gouvernement israélien qui ne veut absolument rien savoir, qui ne veut pas négocier, qui continue la colonisation, et de l'autre, la rue palestinienne qui est prête à en découdre avec tous ceux qui passent par là.
J'ai accueilli il y a quelques mois Jean-François Lépine à l'émission des Livres pleins les oreilles, qui s'appelait encore à ce moment-là Un livre découvert. Et je lui avais posé une question épouvantable, mais bon, lui aussi connaît bien tous les enjeux là-bas, tout ça. Et je lui avais dit, Jean-François Lépine, pensez-vous que de votre vivant, vous verrez un règlement à ce conflit israélo-palestinien? Et j'avais dit, écoutez, il ne reste plus qu'une minute, c'est terrible. Oh, il dit, oh là là, j'ai largement le temps. Non.
Exactement. Et moi, quand je suis allée là-bas, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que les Palestiniens ne voient... Les seuls Israéliens que les Palestiniens voient enfermés dans leur territoire, ce sont les colons, donc des gens qui les agressent directement. Ils connaissent très peu la société civile israélienne normale. Mmh. Et à l'opposé, les seules personnes, les seuls Palestiniens que les Israéliens voient, bon, il y a tous ceux qui travaillent dans les métiers les moins intéressants, mmh, mais ceux qu'ils voient et qu'ils remarquent, ce sont ceux qui traversent avec des bombes.
Ouais, c'est
alors,
ça.
À partir de là, moi, je me souviens d'avoir été totalement déprimée mm-hmm, quand j'étais là-bas. On ne voit malheureusement pas de solution.
Il y a, dans l'actualité aujourd'hui, j'ai trouvé un portrait de ce Ben Carson. Donc, on change complètement de sujet. On revient aux États-Unis. Je ne connaissais pas du tout ce personnage, cet homme qui est noir aussi, comme Obama. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu intéressé à,
oui,
ce type qui est un ancien neurochirurgien. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Qui est complètement à l'antithèse de Donald Trump parce que, justement, c'est ce qu'on nous dit dans cet article. C'est un type qui est très calme, qui parle avec une voix posée, mais il a des idées, finalement.
Il remonte, d'ailleurs, je crois que les derniers sondages que j'ai vus, il remontait un peu. Trump descend légèrement.
Légèrement.
C'est très loin, hein, tout ça. Comme
oui,
on dit en politique, une semaine, c'est une vie. Alors imaginez une année.
Oui, c'est ça,
exactement.
Mais on s'aperçoit que ce bonhomme-là, aussi calme soit-il, il véhicule aussi des idées qui ne sont pas forcément... par exemple, on nous dit ici que c'est un article de qui? Qui a signé ça? C'est Richard Etu dans la presse, qui dit que ce conférencier populaire auprès des militants du Tea Party, entre autres, et de la droite religieuse, défend des croyances et des positions aussi controversées que celles de Trump. Il est membre de l'Église adventiste. Il croit à la création des cieux et de la terre en 6 jours. Il compare les États-Unis sous Barack Obama à l'Allemagne nazie.
En effet.
Il qualifie l'Obamacare de pire chose qui soit arrivée à ce pays depuis l'esclavage. Et il affirme que l'homosexualité est absolument un choix. La semaine dernière, après avoir soulevé un tollé en s'opposant à l'idée d'un musulman à la présidence, il a tenté de nuancer son propos.
Et c'est lui qui a dit ça.
Et lors d'une conférence de presse, il s'était ainsi dit ouvert à l'idée d'un président issu d'un milieu musulman, à condition que celui-ci rejette les principes de l'islam et qu'il jure clairement de placer la Constitution au-dessus de sa religion.
God bless America.
Oui, absolument, Gisèle. Et God bless Gisèle Lalande qui vient nous rejoindre tous les lundis. Vivement la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gisèle.
C'est un plaisir, Clotilde. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Bonjour à vous tous, c'est Kevin Breton qui prend la relève de Clotilde Seille. Le temps de vous faire la lecture des sports, de ce qui a retenu mon attention dans les journaux aujourd'hui. Et ce soir, bien, c'est l'inauguration non officielle du centre Vidéotron dans le cadre d'un match préparatoire du Canadien face aux Penguins de Pittsburgh. On va parler de ça, on va aussi parler de tennis et de football. Eh bien, il ne reste plus que 3 matchs préparatoires au calendrier pré-saison du Canadien de Montréal. Il y aura un match ce soir contre les Penguins de Pittsburgh. Et on se retrouve avec des formations qu'on dit près des vraies équipes. Cependant, Crosby et Malkin ne seront pas du match de ce soir. Avec maintenant 31 joueurs à son camp, après avoir retranché 9 joueurs hier, le Canadien s'approche drôlement de la formation qu'il présentera cette saison. C'est un texte de Jonathan Bernier dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. D'ailleurs, les amateurs qui assisteront au duel entre les Penguins et le Canadien ce soir au Centre Vidéotron auront la chance de voir s'affronter 2 équipes s'apparentant à des équipes de la LNH, Crosby et Malkin en moins. Rien à voir tout de même avec les formations sans grande saveur servies depuis le début du calendrier préparatoire. On entre dans la dernière phase de notre préparation, a indiqué Michel Therrien, au terme de l'entraînement d'hier. Il nous reste 3 matchs préparatoires à disputer et nous devons atteindre le prochain niveau. C'est donc avec les Carey Price, Piqué Subban, Andrei Markov, Alex Galchenyuk et Alexander Semin que le tricolore foulera la glace du nouvel amphithéâtre de Québec. Du côté des Pingouins, il n'y aura pas Crosby, ni Malkin, ni Kessel, mais Marc-André Fleury, Christopher Le Temps, Pascal Dupuis et David Perron seront en uniforme. Bien que le Canadien dispute chaque automne une rencontre dans la vieille capitale, ce match revêt toujours un cachet particulier pour l'entraîneur du CH. J'ai toujours eu un attachement sentimental avec la ville de Québec. À l'âge de 17 ans, j'ai joué pour les Remparts et plus tard, j'ai été l'entraîneur des Citadelles de Québec, a tenu à rappeler Therrien. D'ailleurs, le pilote du tricolore se rappellera toujours son premier match derrière le banc des Citadelles. Celui-ci succédait au Rafale, une formation de la Ligue internationale qui n'avait pas duré. On devenait le club-école du Canadien, donc il y avait beaucoup d'engouement, a-t-il rappelé. Comme la plupart des Québécois âgés de plus de 35 ans, Therrien a vibré au rythme de la rivalité entre le Canadien et les Nordiques. J'ai grandi à Montréal, alors j'étais un partisan du Canadien. Je ne sais pas quand, mais je suis convaincu que Québec aura de nouveau son équipe. Revivre pareille rivalité sera assez unique. Ce qui ajoute à la particularité, c'est que le match se déroulera dans un amphithéâtre tout neuf. Je n'ai pas encore eu la chance de voir ce nouvel édifice. On en entend beaucoup de bien, a mentionné Therrien. Ce sera le premier match de la LNH dans ce nouvel édifice, alors c'est certain que ce sera vraiment spécial. Eh bien, pour ceux qui se posaient la question, les anciens Nordiques acceptent la présence du Canadien au Centre Vidéotron sans problème. Si pour certains résidents de la vieille capitale, la pilule est difficile à avaler, certains anciens Nordiques n'ont aucune difficulté à accepter que le Canadien dispute le premier match de calibre LNH de l'histoire du Centre Vidéotron. C'est un titre signé Kevin Dubé dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. La décision de Québécois d'inviter le tricolore à affronter les Pingouins dans un match hors concours qui aura lieu ce soir avait été grandement décriée. À la suite des critiques, l'entreprise qui gère le Centre Vidéotron avait décidé d'honorer les anciens Nordiques de Québec avant la première rencontre officielle dans le nouvel amphithéâtre. Celle des Remparts de Québec contre l'Océanique de Rimouski avait lieu le 12 septembre dernier, on s'en rappelle. De mon côté, je n'ai aucun problème avec ça. On a été très bien reçus lors de l'ouverture du Centre Vidéotron le 12 septembre dernier, de dire Michel Goulet, l'ancien porte-gloire des Fleurs d'Élysée. De son côté, Alain Côté reconnaît qu'il aura un léger pincement au cœur ce soir lorsqu'il verra le CH fouler la patinoire du Centre Vidéotron. Toutefois, il estime que les gens de Québec doivent arrêter de vivre dans le passé. En quelque part, oui, on aurait pu inviter une autre équipe, mais il faut comprendre que plusieurs personnes à Québec aiment le Canadien. En plus, on n'a pas encore d'équipe à Québec. Les Nordiques vont revenir, j'en suis convaincu, et quand ça arrivera, on repartira sur des bases nouvelles. Il faut arrêter la rivalité canadien-nordique, c'était dans les années 80. Quand on est arrivé dans les années 90, qu'on était vraiment poche et qu'on avait signé plusieurs joueurs européens, il n'y avait presque plus de rivalité, de rappeler Alain Côté. Je rappelle que c'est un texte de Kevin Dubé dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Et du hockey, on transporte maintenant au baseball. Une 90e victoire pour les Blue Jays de Toronto grâce à un circuit en fin de match de 9e manche de Josh Donaldson. Les Jays ont vaincu les Rays de Tampa Bay au compte de 5-4 dimanche, savourant du même coup leur 90e gain de la saison. La formation de la ville reine n'avait pas gagné autant de matchs depuis 1993, époque où le Canadien a remporté la Coupe Stanley par ailleurs. Avec une fiche de 90-65, elle domine la Ligue américaine et détient 4 matchs d'avance sur les Yankees de New York, au sommet de la section S. Déjà assurés de prendre part aux éliminatoires du baseball majeur, les joueurs des Jays n'ont pas ralenti la cadence, balayant leur série de 3 duels face aux Rays et savourant un 4e triomphe consécutif. Donaldson a tranché le débat quand il s'est présenté à la plaque en fin de partie. Il a fait plaisir aux 47 287 spectateurs présents au Rogers Center en retroussant l'offrande du releveur Steve Geltz de l'autre côté de la clôture du champ gauche. Le joueur de troisième but a ainsi claqué sa 41e longue balle de la saison, rien de moins. Tirant de l'arrière 4-1, Justin Smoke a réduit l'écart à l'aide d'un circuit, poussant Edwin Encarnacion au marbre en sixième. Celui qui évolue au premier coussin en défensive a terminé sa journée de travail avec 3 points produits. Deux tours au bâton plus tard, Kevin Pillar a égalé le pointage avec son 30e double de l'année dans la gauche, qui a permis à Dalton Pompey de marquer. C'est un texte de l'agence QMI. Et maintenant, rapidement, au football, une déception des Alouettes hein, qui ont perdu face aux Rough Riders de la Saskatchewan, la pire formation de la Ligue canadienne, faut-il le rappeler. Mathieu Boulay, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, titre sa chronique « Tomber dans le piège ». Avant la rencontre, les joueurs des Alouettes étaient bien au courant que leur adversaire sauterait sur le terrain avec l'intention de défendre chèrement leur peau. S.G. Green parlait d'un match qui représentait un certain piège. On peut dire que la troupe de Jim Pop est tombée les deux pieds dedans. C'est vrai qu'on a trébuché, a déclaré le numéro 19 des Moineaux. Les Riders ont eu la tâche facile durant toute la partie et on n'a pas livré la marchandise. Les nombreuses punitions en première demi nous ont tués. On ne s'est pas donné la chance de remporter ce match. Le receveur croit toujours aux chances de sa formation de finir au premier rang de la section S. Il nous reste encore 5 matchs qui sont tous contre nos rivaux de division, a-t-il fait remarquer. Tout peut arriver et on l'a vu l'an dernier. Je crois que c'est réaliste de penser qu'on peut finir en tête. J'aime nos chances dans le dernier droit. Si les Alouettes veulent atteindre cet objectif, ils devront se mettre au travail rapidement. Je rappelle que c'est un texte de Mathieu Boulay dans le Journal de Montréal de ce matin. Milos Raonic a remporté son premier titre de 2015 hier à Saint-Pétersbourg, en Russie. Le Canadien, qui était classé deuxième favori de la compétition, a défait en finale le Portugais João Sousa en 3 manches de 6-3, 3-6 et 6-3. Merci pour le support pendant cette semaine fantastique à Saint-Pétersbourg. C'est vraiment agréable de conclure le tournoi avec une victoire, de pouvoir soulever le trophée. J'ai hâte de participer au prochain événement, a-t-il indiqué dans une courte vidéo publiée sur son compte Twitter. Fidèle à ses habitudes, le puissant cogneur a réalisé 22 as contre aucun pour son rival, qui a aussi commis 3 doubles fautes. Le représentant de l'Unifolié a placé 63% de ses premières balles en jeu, soit 12% de plus que la 7e tête de série du tournoi. Les deux joueurs ont marqué d'opportunisme en retour de service. Le vainqueur a enlevé seulement 2 de ses 12 balles de bris et le perdant en a gagné 1 sur 10 tentatives. Au total, Raonic a remporté 98 de ses 86 échanges. Et en terminant, Eugénie Bouchard a annoncé lundi son retrait du tournoi de tennis de Wuhan en Chine, étant encore incommodée par les symptômes de la commotion cérébrale qu'elle a subie à New York aux internationaux des États-Unis. Et parlant de commotion cérébrale, une dernière nouvelle avant de vous quitter. On apprend dans la presse aujourd'hui dans un texte de Marc-Antoine Godin que Noah Yulson avait appris la dernière de ses ennuis avec la... Selon ce qu'a appris la presse, excusez-moi, qui le laisse sur la touche depuis le début du camp d'entraînement, il aurait subi sa 3e commotion cérébrale. Pour un espoir d'à peine 18 ans, c'est quelque chose d'un peu préoccupant pour l'organisation du Canadien. Alors que je souligne la bienvenue à ma collègue Clotilde Seille de retour en studio.
Mais oui, cher Kevin, non, c'est ça, je pensais à la petite Eugénie avec sa commotion et cérébrale.
Oui, ça laisse encore des traces.
Oui, hein, on ne sait pas, mais alors c'est quoi? C'est un coup de raquette? On ne saura jamais.
C'est mystère et boule de gomme. Mystère et boule de tennis, non?
Oui, oh, oui, non, excellent.
Si j'étais chroniqueur, j'aurais arrêté mon titre.
Voilà, si vous êtes des fidèles de l'émission, peut-être reconnaîtrez-vous ce petit indicatif comme celui qui accueille régulièrement des collègues de Canal M qui viennent éventuellement nous partager un article, mais aussi nous parler de leurs propres émissions. Bonjour Marianne Paquette.
Bonjour Clotilde.
Alors ce matin...
Ben, je continue un petit peu dans la lignée de Kevin parce que je parlerai de sport aussi, mais à ma façon, course à pied, on le sait, une activité sportive ou bon, du moins physique, extrêmement prisée depuis quelques années, extrêmement populaire. Tout le monde se met à la course, au jogging, que ce soit de façon plus récréative pour bouger un peu ou de façon un petit peu plus sérieuse. Uh-huh. On peut penser au marathon, hein. Ouais, il y en a de toutes les sortes pour plaire à tous les goûts des marathons. Ce que je ne savais pas, Clotilde, c'est qu'il existe également des ultra-marathons. Donc, des gens qui courent 160 km. On appelle ça des ultra-marathoniens. On parle de 30-35 heures de course. Donc, pas de dodo ou presque pas. On mange rapidement et on repart à la course. C'est le cas de Patrice Godin, un acteur très, très connu du grand public qui a fait énormément de séries télévisées très, très, très à la mode. Le Providence, le 7e round, Destiné. Patrice Godin a sorti un livre il y a de ça quelques semaines sur son amour de la course. Ça s'appelle Territoire inconnus. Et je vais le recevoir mercredi pour en parler. Et il y a le journaliste Gabriel Bélan dans la Presse Plus qui a écrit un livre, plutôt un article sur le livre de Patrice Godin. Ça va comme suit. Lettre d'amour à la course. L'alcool, l'angoisse, les clopes. Qu'est-ce qui fait qu'on décide, quand on s'est enfoncé dans le mauvais chemin, de revenir sur ses pas? Pour le comédien Patrice Godin, ça a été la famille et une rencontre qui a changé sa vie comme une grande histoire d'amour, la course. Il n'y a pas eu de moment clé, il n'y a pas eu un avant et un après. Mais Patrice Godin se souvient d'un jour, il y a moins de 10 ans. Ses deux filles jouaient dans la cour, elles prenaient des bouts de bois et les portaient à leur bouche. « Regarde, papa, on fume! » Il a su qu'il devait arrêter. Il fumait depuis l'âge de 14 ans à raison de 20 cigarettes par jour. Il calcule en avoir enfilé 189 800. Mais là, il était père. Il avait presque 40 ans. Il avait des enfants et il avait rencontré une nouvelle maîtresse qui n'aimait pas la clope, la course.
Ah oui, hein?
Au début, il y a eu les fréquentations, quelques sorties matinales avec sa fille dans la poussette. Puis, il ne sait pas trop comment, les choses sont devenues sérieuses. Il voulait être avec elle tout le temps, été comme hiver, sous la neige, comme sous la pluie. Donc, le journaliste dit qu'au départ, l'acteur, il ne voulait pas raconter sa vie. Ce n'était pas ça son objectif. Mais quand il s'est mis à écrire, c'est venu de soi. Il a raconté son histoire, celle d'un jeune homme pétri d'angoisse, par moments suicidaire. Patrice Godin raconte des moments dépressifs de sa vie, amoureux de la bouteille et de la clope. Celle d'un jeune comédien aussi qui rêvait d'aventure, mais qui a trouvé un métier. Et aussi l'histoire d'un vide. Il raconte, Patrice Godin d'ailleurs, qu'il a été adopté. On ne savait pas ça, je pense. Il se révèle là-dedans et que ça, même encore maintenant, il combat cet abandon-là qu'il ressent encore. Donc, Patrice Godin nous dit « L'aventure, je la trouve ailleurs que dans mon métier ». Parce que, bon, la désillusion a un petit peu quitté, là. Je la trouve quand je cours, quand il pleut à Sio. Quand il fait un froid polaire, sur une course de 160 km, tout peut arriver. Tu peux être top shape et t'écraser après 30 km. Ce sont mes aventures à moi. Quelque part, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais quand j'étais enfant. Godin n'est pas un coureur rapide, c'est un coureur ordinaire, c'est lui-même qui le dit. La vitesse ne l'intéresse pas, ce sont les distances qui m'intéressent, qui m'attirent, le temps que je peux passer debout sur mes jambes. Au fil de ses courses, de ses aventures, il a vu un ours dans les bois. Il a subi une panne de lampe frontale en pleine nuit. Il a eu des hallucinations parce que trop épuisé.
C'est ça, l'effort.
Il a parfois abandonné quand le corps ne suivait plus. Mais plus souvent, la tête. J'ai déjà abandonné une course de 160 km au 145e kilomètre. Il explique tout ça dans son livre. La course, c'est une maîtresse qui blesse parfois, mais Godin ne lui en tient pas rigueur. Et il dit quelque chose d'extrêmement émouvant dans son livre. Il dit « Quand on court, on sait d'où vient la douleur. Quand on vit, ce n'est pas toujours le cas. »
Le cas. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que, finalement, ce n'est pas aussi une façon de fumer 20 cigarettes par jour? Est-ce que ce n'est pas un transfert de, entre guillemets, de dépendance? Parce que courir pour se maintenir en santé quelques kilomètres par jour, mais là, c'est tellement énorme, 165 kilomètres. Est-ce que ça n'est pas un petit peu comparable à celui qui, au lieu de prendre un scotch par jour, va vider la bouteille? Quoi, c'est, en tout cas,
oui. C'est... Et surtout qu'il le raconte dans son livre.
Ah, il le dit, ça, OK. Vous allez pouvoir en parler.
Mais il côtoie cette souffrance-là. Et aussi, c'est une bataille constante avec lui-même parce que Et il le dit, là, quand on court 160 km et qu'on abandonne au 145e, c'est une bataille constante avec son mental.
Ouais.
Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Ah, ça fait mal. Non, je continue. Il fait froid, il pleut, il fait chaud. J'ai mal partout. Je suis fatiguée, j'ai faim, etc. Là. Et il raconte à un moment donné une course de 160 km. Là, il la décrit. On est dans sa tête et on se demande comment
il
peut...
Tient debout?
Oui, c'est ça. Hmm. On finit ce livre-là, Clotilde, on est essoufflé même temps extrêmement ému. C'est très, très émouvant, cette lettre d'amour-là à la vie. C'est aussi parce que c'est ce qu'il a retenu à la
bien
vie
sûr.
En même temps,
en
la
même
course.
Temps.
Ouais. Ouais, et la famille, il le dit aussi. Mais et je fais un résumé de la fin de l'article dans la Presse Plus. Il dit qu'il est devenu un meilleur père, mm-hmm. un meilleur homme, mm-hmm. Que ça lui a appris à vivre la course.
Mais est-ce qu'il est capable d'arrêter de courir?
Comment finira cette histoire? Godin n'en sait rien. En attendant, il se dit qu'il ne faut pas trop se poser de questions, qu'il a intérêt à simplement profiter pendant qu'il est là, à ses côtés, la course.
Merci beaucoup, Marianne. Je vais écouter ça avec grand intérêt. Rappelez-nous quel jour vous allez accueillir...
Mercredi.
Mercredi qui vient.
C'est mercredi, 14h15.
À 14h15. Alors, mais votre émission est à 14h,
voilà.
Bien sûr. Mais à 14h15, ne manquez pas donc cette rencontre entre Marianne Paquette et Patrice Godin. Oui, c'est certain que je vais écouter ça. Merci beaucoup, Marianne.
Merci.
Bonne semaine. Maintenant, en région, c'est avec la Tribune que je vais commencer cette chronique régionale. Alors, un rêve accessible, comment je pourrais passer à côté de ce papier-là qui est signé par qui, voyons? Eh bien, ce n'est pas écrit et c'est bien dommage parce que c'est fort intéressant. L'accessibilité aux études a une toute autre signification pour un nouveau diplômé de kinésiologie de l'Université de Sherbrooke. Ce garçon-là a été victime d'un accident de voiture qui l'a privé de l'usage de ses jambes alors qu'il n'avait que 17 ans. Il s'appelle Yann Martin. Il l'aura pris 10 ans avant. Ça lui aura pris 10 ans de se convaincre que ses rêves d'œuvrer dans le domaine de la santé physique n'avaient pas à être cloués à son fauteuil roulant. Il dit, Yann Martin, quand j'ai eu mon accident en 5e secondaire, j'ai arrêté l'école. Je voulais être prof d'éducation physique ou physiothérapeute à ce moment et je ne voyais pas l'université comme quelque chose d'accessible. Plusieurs années plus tard, je me suis retrouvé membre au gym Actiform à Saint-Jean-sur-Richelieu où je m'entraînais. Je rencontrais des stagiaires en kinésiologie à qui je demandais quelles études ils avaient faites pour se rendre là, parce que j'aurais aimé faire pareil si je n'avais pas été en fauteuil roulant. Et l'un d'eux m'a dit qu'un fauteuil roulant ne pouvait pas m'empêcher de faire ça, se rappelle le nouveau diplômé de 31 ans. Alors, il a été encouragé par ses étudiants qu'il côtoyait en gymnase, mais il ne voulait pas trop s'emballer, M. Martin, lui qui craignait d'avoir à se contenter finalement d'un bout de papier à encadrer. Parce qu'il dit, c'est bien beau d'être intéressé, c'est bien le fun, mais qui allait m'engager là-dedans? Et alors, c'est là que le patron du gymnase, où il s'entraînait, lui a dit qu'il l'engagerait s'il avait son diplôme. Bon, il n'était pas convaincu à 100%, mais ça a été le déclic qui l'a incité à aller de l'avant et à foncer. Et au dire d'Yvan Ouellette, qui était également à l'Université de Sherbrooke pour accompagner sa fille Élodie, nouvellement diplômée en droit, l'embauche de Yann allait de soi. Il dit la beauté avec Yann, ce directeur du gymnase, c'est que c'est un gars curieux, enthousiasmé partout et qui a une personnalité incroyable. Dans le domaine dans lequel on est, l'handicap, je m'en fous complètement. C'est l'attitude et la personnalité de l'individu qui me préoccupe avant tout, de même que son désir d'aider les gens. Tout ça, Yann, là. Il a choisi la pire ville pour être en fauteuil roulant en plus, souligne en riant Yvan Ouellette. À partir du moment où tu passes à travers Sherbrooke en fauteuil roulant, il n'y a plus rien qui t'arrête. Sérieusement, sa présence est une motivation de plus pour tout le monde. Il vient avec nous dans des interventions et les gens sont stupéfaits de voir ce qu'il peut faire, même en fauteuil. Que ce soit des athlètes professionnels ou des jeunes en développement, il incite tout le monde à se dépasser. En vérité, la fierté de l'entrepreneur n'avait d'égal que celle du principal intéressé qui pourra maintenant travailler dans le domaine qui l'a toujours passionné. Voilà, c'est l'aboutissement de 5 années d'efforts et de sacrifices. Pour moi, a dit Yann Martin, c'est quelque chose de gros. J'avais 26 ans quand j'ai pris la décision d'aller à l'université, de lâcher mon emploi et de demeurer en résidence. C'était gros, mais ça en valait la peine, assure le nouveau kinésiologue. tout sourire. Et c'est signé dans la tribune Charles Baudouin. Et aujourd'hui, dans Le Devoir, il y a un papier signé Gilles Levasseur. Cet homme est auteur et professeur et constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Il revient sur les fêtes nationales et surtout sur la fête du drapeau franco-ontarien qui, dit-il, est le symbole d'une nation fière de son héritage et de sa volonté de faire place à l'égalité du groupe majoritaire en Ontario. Le 25 septembre est devenu la fête nationale des francophones de l'Ontario et elle est célébrée aux quatre coins de la province. Elle est reconnue par les francophones et de plus en plus par les anglophones. Le symbole par excellence de Toronto, la tour CN, a été illuminée de vert afin de célébrer l'apport des francophones. De même, les chutes Niagara ont été illuminées de la même couleur, symbole de ce drapeau. Le vert et le blanc sont les couleurs distinctives du drapeau franco-ontarien, mais aussi de la communauté. Le gouvernement de l'Ontario a reconnu le drapeau franco-ontarien comme symbole de la communauté franco-ontarienne et il flotte, dit M. Levasseur, Gilles Levasseur, il flotte ce drapeau avec fierté. Sa création en 1975 fait suite aux États généraux de 1967, nous rappelle-t-il, où les francophones de l'Ontario ont dû se redéfinir par suite du rejet par les Québécois de la conception du Canadien français au profit d'une réalité territoriale québécoise. Cet abandon des francophones hors Québec par les Québécois a obligé les premiers à se regrouper sans la présence des Québécois et à se construire une nouvelle identité. La fête nationale du Québec, le 24 juin, est encore une date qui fait vibrer certains francophones hors Québec, mais ceci est de plus en plus du folklore. Ces derniers célèbrent leur fête nationale en fonction de leur lutte et de leur combat. Les Acadiens ont leur fête le 15 août et ceci est maintenant le cas pour les Franco-Ontariens avec le 25 septembre. Nous ne partageons plus la même fête nationale, mais nous aspirons tous à vivre un développement et un épanouissement de la langue et de la culture française au sein du Canada. Les francophones hors Québec ont pris une route différente des Québécois dans plusieurs domaines et ont forgé leur propre système identitaire. Aujourd'hui, il est nécessaire de rétablir des ponts entre les deux communautés linguistiques et de continuer à travailler ensemble afin que le Québec et l'Ontario puissent devenir des alliés forts de la francophonie canadienne. Cette alliance doit se vivre aussi dans l'économie, dans la création de richesses, élément essentiel au soutien et à l'épanouissement d'une langue, disait encore M. Gilles Levasseur ce matin dans Le Devoir. La caricature dans, je vous ai dit Le Devoir, hein, c'était pas du tout dans Le Devoir, c'est dans Le Droit bien sûr, pardon. La caricature dans Le Droit d'ailleurs, c'est la caricature qui est même reprise dans la presse ce matin, dans la plupart des journaux régionaux. Nous sommes dans un bureau de vote le 19 octobre. Nous sommes au bureau 068 de n'importe quel endroit où on va pouvoir aller voter. Et là, il y a une file de gens qui viennent voter. Alors, le premier s'est mis sur la tête un sac de papier brun avec juste les deux yeux qui apparaissent. La deuxième s'est mis un masque du bonhomme carnaval. Le troisième s'est mis un pied sur la tête. La quatrième est arrivée en maillot de bain avec un masque et un tuba. Le cinquième arrive avec une main et un doigt d'honneur qui se détache de la main. La sixième arrive avec une paire de fesses bien en évidence sur la tête. Hein, je vous rappelle que ce sont des choses qui se mettent sur la tête. Il y en a une autre qui arrive avec un condom sur la tête. Et enfin, il y en a un autre qui arrive avec une toilette sur la tête et on ne voit apparaître que le haut des cheveux qui sortent de la bolle, comme on dit vulgairement en québécois. Et puis, à la une du soleil ce matin, ce qui retient l'intérêt, c'est surtout les élections fédérales et le poids du niqab. Il est écrit à la une du soleil. Dans Louis Saint-Laurent, la question rejaillit durant les séances de porte-à-porte des candidats du NPD et du PLC, même quand ceux-ci voudraient bien changer de sujet. Également à la une du soleil, c'est d'ailleurs le gros titre, une victoire pour le oui catalan, dont nous parlions tout à l'heure avec Gisèle Lalande, ce qui me permet de vous dire que vous pouvez réécouter l'émission à peu près n'importe quand, quand bon vous semblera, si vous allez sur le site www.vusezvoix.com. De là, vous allez sur la radio, Canal M, directement, vous allez voir, c'est vraiment écrit très gros, vous pouvez cliquer dessus, et là, il y a un petit encart qui s'appelle « Émission ». Vous cliquez sur émissions et là vous avez toutes les émissions qui sont diffusées et produites par Canal M jour après jour. C'est comme ça que vous pouvez retrouver les voix de service et écouter ce qu'entre autres Gisèle Lalande, mais aussi toutes les voix de service avaient à vous dire ce matin. Et ce qui fait la une du quotidien ce matin, ce qu'on voit vraiment en gros, c'est un gros nœud papillon. Et là, on nous parle de Félix-Antoine Tremblay, qui est un comédien et un homme d'affaires qui collectionne les nœuds papillons. On voit aussi que les chasseurs sont comblés, mais que ça prend beaucoup de patience chez le boucher parce qu'il y a énormément d'orignaux à découper. Vous savez que la saison de la chasse est ouverte. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel journal, c'est dans le journal de Montréal où l'on voit une voiture québécoise avec un orignal sur le capot et ils se font doubler par une petite auto dans laquelle il y a deux Arabes et en haut sur le toit ils portent un mouton et alors ils disent ah bah tu vois qu'on s'est quand même bien intégrés. Et à cette émission Les Voix de Service, il est l'heure de passer à quelques actualités internationales. Bien sûr, il en a été beaucoup question de la Catalogne avec Gisèle Lalande. Je ne reviendrai donc pas sur le sujet tout de suite, mais je voudrais vous dire qu'il y a eu les premières frappes françaises en Syrie. Le président français qu'on voit en photo qui s'est exprimé sur les frappes de la France en Syrie à la veille de la 70e Assemblée générale de l'ONU dimanche. François Hollande qui a invoqué la légitime défense pour expliquer sa volte-face. La France a mené dimanche ses premières frappes contre le groupe État islamique en Syrie au nom de la légitime défense contre la menace terroriste et pour avoir voix au chapitre dans le grand jeu diplomatico-militaire actuellement en cours sur ce dossier. L'annonce des frappes, solennellement confirmée par le président français François Hollande à New York, intervient à la veille de l'ouverture officielle de l'Assemblée générale de l'ONU, où Moscou, qui a repris la main sur le dossier, va tenter de sauver son allié syrien Bachar al-Assad et proposer une coalition élargie contre les terroristes. La France a frappé un camp d'entraînement du groupe terroriste Daesh, acronyme arabe, vous le savez, de l'État islamique, qui menaçait la sécurité de notre pays, a déclaré M. Hollande, ajoutant que l'opération impliquant 6 avions a été menée près de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Selon le chef de l'État, qui n'a pas exclu d'autres frappes dans les prochaines semaines, il n'y a pas eu de pertes civiles au cours de ce raid, mené grâce aux renseignements recueillis ces deux dernières semaines lors des vols de reconnaissance français au-dessus de la Syrie, ainsi que grâce à des informations fournies par la coalition. Et pendant ce temps-là, des Syriens courent, partent toujours à la recherche du rêve allemand. Rim Haddad et Sami Ketz, tous deux de l'agence France Presse à Damas, nous parlent d'un d'une personne qui finalement finit par partir en Allemagne. Ainsi, l'Institut de langue ibéenne Sina Adamas a remplacé tous ses cours d'anglais en ce moment par l'allemand, tant la demande est grande. C'est-à-dire que pour se préparer évidemment à ce grand voyage, eh bien, on a remplacé tous les cours d'anglais par des cours d'allemand. Il y a sur les murs des classes des cartes de l'Allemagne qui sont accrochées avec les noms des villes dans cette langue. Moumen Zarzour, par exemple, est un médecin de 26 ans qui veut poursuivre en Allemagne sa spécialisation en gastro-entérologie en raison des facilités offertes par Berlin. Pour soumettre une demande de visa à l'ambassade à Beyrouth, il doit prouver qu'il a suivi des cours et déposer une garantie de 8 200 €. Interrogé par l'AFP, un responsable allemand a indiqué que 6 500 visas avaient été délivrés en 2011 contre 5 fois plus aujourd'hui. Il s'agit de visas pour des raisons humanitaires, pour regroupement familial ou pour des études. L'apprentissage de la langue est devenu un sujet de plaisanterie sur les réseaux sociaux où, par exemple, on peut écrire, on peut lire sur Facebook « Celui qui a inventé le livre « Apprenez l'allemand en 5 jours sans professeur » est un sacré menteur ». L'Allemagne fait rêver tous les Syriens qui ont surnommé la chancelière « Mama Merkel », représentée en habit traditionnel syrien sur des pages Facebook. Et à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, un Syrien a posé la photo d'un mouton portant des lunettes de soleil qui se réjouit. « Dieu merci, je me suis échappé de la Syrie avant l'Aïd et je suis bien arrivé en Allemagne ». Allemagne, Allemagne, nous partons vers l'Allemagne avec les passeurs. Si nous ne pouvons pas arriver par la Turquie, nous passerons par l'Espagne, la France ou l'Autriche, chantent deux Syriens sur Facebook. Ahmad, 30 ans, titulaire d'une licence de gestion, s'est vu refuser son visa l'an dernier, bien qu'il ait le niveau requis en allemand. « Si j'ai su un nouveau refus, dit-il, je prends la mer. Au lieu de payer une garantie de 8 200 € pour le visa, j'en paierai la moitié. » Un passeur. Il y a un risque de périr en mer, mais en restant ici, je suis sûr de mourir, dit-il. Tous mes amis sont partis. En restant à Damas, j'ai l'impression d'être en exil. Et vous l'aurez compris, on s'en va maintenant vers le culturel. D'abord dans le devoir, puisque nous y étions, restons-y. On parle rarement, sauf lorsque l'amie Christine Boucard vient se joindre à moi, de musées. Eh bien, on nous dit aujourd'hui qu'à Québec, les musées ont besoin de financement. Et c'est ce que martèlent indéfiniment les syndicats. Il semblerait que les services à la clientèle soient directement affectés, particulièrement dans les établissements régionaux. Trop de musées se trouvent sous le respirateur artificiel, selon la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, et la Fédération nationale des communications, FNC-CSN. Alors, lors d'un point de presse qui a été tenu à Montréal dimanche en avant-midi, ces deux organisations ont conjointement exigé un engagement de la part des partis fédéraux pour remédier à la situation. Selon la secrétaire générale de la FNC-CSN, Pascal Saint-Onge, il faudrait que ces différentes formations politiques promettent d'augmenter les transferts aux provinces destinés directement au réseau muséal. Elle a précisé que n'importe quel montant additionnel serait évidemment le bienvenu. Madame Saint-Onge, qui a soutenu que l'injection de fonds supplémentaires constitue un passage obligé, faute de quoi la situation des musées continuera de péricliter. Elle a mentionné que plusieurs de ces institutions se retrouvent déjà dans une position critique menaçant leur avenir. Les services à la clientèle sont directement affectés. On le ressent particulièrement, déplore-t-elle, dans les établissements régionaux. Ils sont souvent contraints de réduire leurs heures d'ouverture ou encore carrément de fermer pendant des mois, chaque année. Il y a des expositions que leurs responsables aimeraient mettre sur pied, mais ils ne sont pas capables d'y arriver. Pascal Saint-Onge a ajouté que le gouvernement provincial doit aussi faire son bout de chemin pour corriger le tir et cesser de se désengager de ses responsabilités en matière de culture. Malheureusement, pour le moment, on sent que Québec semble miser beaucoup plus sur le mécénat et la philanthropie que sur des investissements nouveaux. Or, ça devrait être des bonus dans le financement des musées, a-t-elle martelé. Ce matin, dans le Journal de Montréal, le gros dilemme télé pour Mme Sophie Durocher, le retour du banquier ou le retour de Tout le monde en parle? Eh bien, finalement, elle a regardé Tout le monde en parle en sirotant un petit verre de vin blanc, nous dit-elle, en recevant des auteurs d'essais, Fabrice de Pierrebourg et Vincent Larouche, une romancière, Anna Todd, une auteure d'autobiographie, Stéphanie Trudeau, un cinéaste, Philippe Falardeau, et un comédien, Patrick Huard. Tout le monde en parle ressemblait presque un talk show culturel. Pourrait-on en avoir plus souvent, s'il vous plaît, vu que Radio-Canada ne diffuse plus de magazines culturels, demande Madame Durocher. L'échange le plus estomacant de la soirée a eu lieu, semble-t-il, entre Pierre Falardeau et Stéphanie Trudeau, l'ex-matricule 728, au sujet des événements du printemps 2012. Falardeau lui a demandé, dans le corps policier, quand vous faites face à une manifestation politique, est-ce que vous discutez de la raison pour laquelle ces gens-là sont dans la rue ? Je sais que vous avez des protocoles à suivre et des ordres à suivre, mais est-ce que, entre vous, vous posez la question « ont-ils raison d'être là ?» L'ex-policière a répondu « c'est pas une question s'ils ont raison ou pas ». L'interrompant et ne la laissant pas finir sa pensée, Falardeau a déclaré « mais vous répondez à ma question ?» J'étais soufflé, dit Madame Durocher, par la naïveté de Falardeau. Si un jour des militants qui n'aiment pas les films de Monsieur Falardeau vont manifester devant chez lui, brisent les vitres de sa maison, cherchent à s'y introduire par effraction, pensez-vous qu'ils souhaiteraient que les flics s'interrogent sur le bien fondé des manifestations avant de faire régner la loi et l'ordre? Pensez-vous, dit-elle, qu'ils souhaiteraient que les policiers autour d'un feu de foyer en sirotant un cognac philosophent sur le bien fondé des manifestations anti-Falardeau? Non, M. Falardeau va souhaiter, comme tous les autres citoyens, que la police applique la loi et empêche des contrevenants de commettre des actes illégaux. Hier soir, à Tout le monde en parle, Philippe Falardeau, Patrick Huard et Antoine Bertrand semblaient tous les trois exaspérés par cette policière. Je ne défends pas les gestes commis par Mme Trudeau, mais il y avait tellement de condescendance dans les questions que ces artistes lui ont adressées, tellement de mépris dans la façon dont il finissait ses phrases, l'interrompait et lui faisait dire ce qu'elle n'avait pas dit, qu'elle passait presque pour une victime. Les artistes défendent la liberté de penser et le dialogue, mais il faut croire qu'ils utilisent deux poids, deux mesures. Si tu es une méchante police, sois bête et tais-toi. Dimanche soir, ce sont ces artistes qui ont sorti la matraque. Et puis elle dit encore, on a connu d'autres moments surprenants hier, notamment Patrick Huard qui s'est fait demander si les femmes devraient pouvoir porter le niqab aux cérémonies de citoyenneté. Il a répondu en gros, c'est complexe. Je n'ai pas assez d'informations pour pouvoir me prononcer. Pourtant, au Québec, 93% de la population est contre le port du niqab. Sont-ils tous mal informés? Quand Guy Lepage lui a demandé si on devrait intervenir militairement contre l'État islamique, Huard a répondu qu'il était contre l'utilisation des armes en toute occasion. Aurait-il dit la même chose quand les pays alliés se préparaient à intervenir militairement en Allemagne, se demandait pour conclure Madame Durocher. Un dossier que j'ai trouvé assez sympathique ce matin dans la presse au sujet des astrologues. Vous savez, les astrologues, bon, de quel signe es-tu ? Aujourd'hui, il va t'arriver ça, tu vas rencontrer quelqu'un adorable, bon, pas beaucoup de cheveux, une petite barbe avec des petites lunettes, mais vraiment un type très très sympathique. Non, mais vrai, il paraît que c'est de moins en moins payant, et c'est ce que nous explique Hugo Pilon-Larose, qui nous dit qu'au début, au tournant des années 2000, un club sélect d'astrologues faisait de l'or avec ses horoscopes. Et oui, ils vendaient des dizaines de milliers d'exemplaires de leurs livres et comptaient sur des contrats dans les médias pour s'assurer un avenir prometteur. Et bien depuis quelques années, l'alignement des astres ne leur est toutefois plus favorable. Et non, Jacqueline Aubry a publié son premier horoscope en 1981. Quoiqu'elle ne soit pas l'auteur qui génère le plus de ventes au Québec, elle est la doyenne des astrologues de notre petit univers. « J'ai fait de l'or avec mes prédictions », se rappelle-t-elle. « Pendant plusieurs années, j'avais un livre annuel et un horoscope quotidien dans une radio commerciale. L'arrivée de l'Internet a toutefois tout chamboulé. Les ventes se sont finalement effondrées. » À 66 ans, elle a connu l'âge d'or de l'astrologie et traverse maintenant, tant bien que mal, cette nouvelle époque plus austère. Avec son fils Alexandre, elle coécrit toujours un horoscope annuel, mais mise désormais sur son site Internet pour faire la promotion de ses services et vendre les consultations privées. Ma mère a pu bénéficier des belles années. Avec son livre et ses contrats, elle générait un revenu annuel supérieur à 60 000 $. Aujourd'hui, nos prédictions annuelles nous rapportent environ 6 000 $ chacun. Et notre site Internet génère juste assez de revenus pour payer un maigre salaire à mon oncle qui s'occupe de la mise en ligne, explique Alexandre Aubry, qui a appris à écrire des horoscopes à coup de séances privées le dimanche avec sa mère. Une petite histoire de nos astrologues et de l'astrologie. Anne-Marie Chalifoux, par exemple, elle est en librairie aujourd'hui. Voyons, ça s'appelle Horoscope 2016, c'est aux éditions Publistar. Le premier horoscope qu'elle a publié, c'était en 1983. Pendant son adolescence, Anne-Marie Chalifoux ne croyait pas aux prédictions des astrologues. Je pensais qu'ils étaient des criminels qui abusaient de la crédulité des gens. Étudiante en sciences, elle a donc décidé de lire sur l'astrologie, de suivre des cours et de se bâtir un argumentaire contre ces charlatans. Or, à force d'étudier, elle s'est mise elle-même à y croire. Il y a certains arguments que je ne pouvais pas démolir. Par exemple, si la Lune peut soulever des marées, l'être humain ne peut pas être complètement perméable à ça. Notre corps est en partie fait d'eau, croit-elle fermement. Intéressant tout cela. Ginette Blais, ses premiers pas en astrologie, Madame Blais affirme avoir pris connaissance toute jeune de son désir d'aider les autres. À ce moment-là, je n'avais pas la conscience de l'univers du cosmos et de l'appel. Tout ce que je savais, c'est que je saisissais les émotions des gens et que je voulais les aider, dit-elle d'un ton empathique. Dans la vingtaine, elle a suivi des cours en astrologie, mais son manque d'expérience l'a rattrapée. J'étais bonne pour dessiner les cartes du ciel, mais ma professeure m'a suggéré d'aller vivre un peu pour me faire une expérience de vie, raconte-t-elle, un peu. Et c'est finalement en 2002, à l'âge de 47 ans, qu'elle a publié son premier livre. Depuis, elle dit « Je tente de guider les personnes pour les amener plus haut et plus loin ». Mais j'en ai d'autres pour vous. Alors pour finir sur ce sujet de ce marché en décroissance qui est le marché de l'astrologie, sachez que la part de marché est descendue de 23,4% en ésotérisme entre 2012 et 2014. La littérature, c'est une baisse de part de marché de presque 26%. Entre 2012 et 2014 toujours. Par contre, en ce qui concerne la vie pratique, c'est une hausse de 3,5%, ce qui représente en part de marché 13,5%. Alors voilà, les astrologues prédisent beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas prévu cette chute brutale de l'intérêt des Québécois pour les horoscopes annuels en librairie. Rebonjour Kevin Breton, ça va bien?
Rebonjour Clotilde, oui ça va très bien.
Alors
merci.
Vous êtes là maintenant pour nous présenter le bulletin du handicap.
Oui.
Cela veut dire pour moi qu'il est temps que je m'éclipse comme la lune. Hein?
C'est la cloche.
Ah, 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 ah. Merci beaucoup. Je suis un peu moins rouge que la lune hier cependant. Comment ça, Sosa? Ah, ce matin, j'étais en feu. Alors, mes amis, je vous laisse là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir choisi Canal M. Parlez-en à vos amis, on travaille fort. Parlez-en autour de vous. Merci à Mathieu Tessier et bienvenue donc à Kevin Breton. Bonne journée et à demain, 9h.
Bonjour, mon nom est Daniela Ferrière et vous écoutez Canal M, la radio de Vuzévoix.
Canal M, pour voir autrement.
Le bulletin du handicap. Bonjour à vous tous, ici Kevin Breton et voici les manchettes en ce lundi 28 septembre 2015. Boussole électorale, de grands progrès sur le plan de l'accessibilité. Soirée sur roue, un 5 à 7 en fauteuil roulant. Des membres de la communauté sourde retrouvent le goût de la lecture. Handicap, Paris promet de mettre les moyens. Et joueuse de goalball recherchée. Le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec mène, et ce depuis avril 2011, de nombreuses démarches afin d'améliorer l'accessibilité de la boussole électorale pour les personnes avec un handicap visuel. Le populaire outil politique mis en place par Radio-Canada présentait certaines lacunes le rendant inaccessible pour les personnes utilisant des synthèses vocales. Le RAC a donc pris, avec M. Hubert Lacroix en 2011, président et directeur général de la Société Radio-Canada, contact. Une plainte avait également été formulée à l'Ombudsman de la Société Radio-Canada. Le RAC constate aujourd'hui les fruits de ses efforts. De réels efforts ont été déployés en vue de rendre la boussole électorale accessible aux citoyens ayant des limitations visuelles, peut-on lire sur le site du regroupement. Toutefois, puisque rien n'est parfait, le questionnaire de la page Profil de l'électeur n'est toujours pas accessible pour les utilisateurs de logiciels adaptés tels que JAWS. Le RAC propose donc alors de passer immédiatement à la page Résultats, faute de meilleures solutions. C'est dans une ambiance festive et décontractée qu'a eu lieu la toute première édition de la Soirée sur roue, un événement réalisé par l'organisme Moelle épinière et motricité Québec, dont Canalem était d'ailleurs fier partenaire, dans le cadre des premières journées québécoises pour les lésions médulaires. En effet, plus de 200 personnes issues de différents milieux se sont donné rendez-vous à l'espace Réunion pour célébrer la force de caractère dont font preuve ceux et celles qui doivent composer avec une déficience motrice. Pour ce faire, les convives présents étaient donc invités à se déplacer tout au long de la soirée en fauteuil roulant. Selon M. Walter Zalaya, directeur général de Memo Québec, placer une personne bipède dans un fauteuil roulant s'avérerait l'outil de sensibilisation idéal pour ce type d'événement. Il souligne « Le quotidien représente un défi constant pour les personnes avec une lésion à la moelle épinière. Ces dernières doivent constamment s'adapter à l'environnement et aux différentes réalités qui les entourent. C'est pourquoi, pendant l'espace d'un moment, nous voulions inverser les rôles. » Parmi ceux qui se sont mouillés, le député de Rosemont pour le Parti québécois, Jean-François Lisée, qui pilote entre autres les dossiers des services sociaux, des soins à domicile et de la santé publique pour l'opposition, il a salué l'initiative du comité organisateur. « Nous ne sommes pas en mesure de départir qui sont les invités qui se sont prêtés au jeu, de ceux qui sont en chaise roulante de par leurs conditions. Nous sommes tous sur un pied d'égalité. » Si le trajet parcouru depuis les dernières années est remarquable, plusieurs reconnaissent toutefois que l'aventure est très loin d'être terminée. Invité pour livrer l'une des deux prestations musicales de la soirée, Emmanuel Robitaille, candidate à la voix en 2013, croit que le travail de conscientisation pour les déficiences motrices devrait d'abord et avant tout venir de l'intérêt individuel des gens. Est-ce que de gaver les gens marcherait davantage? Je crois que non. Je préférais que les gens s'y intéressent par leur propre gré, a-t-elle reconnu. Pour sa part, le chanteur et porte-parole de l'événement, Marco Cagliari, a pointé du doigt les problèmes d'accès aux salles de spectacle pour les personnes handicapées. Il affirme « C'est dommage, mais il n'y a pas de salle de spectacle adaptée. Celles qui se disent adaptées peuvent accueillir au maximum 8 chaises roulantes. En plus, elles chargent des prix de fou. Alors comment peut-on organiser une levée de fonds pour amasser de l'argent qui va faire la différence si l'on doit tout redonner ensuite? » Le chanteur poursuit en disant « Il faut créer une place adaptée et s'assurer que l'argent qui va y être généré soit remis à des causes. » Quant à lui, M. Lisée croit qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire de ce côté-là. La moindre des choses, c'est qu'il ne faut pas ériger d'autres obstacles pour ces personnes qui ont été mal servies par la vie, a-t-il mentionné. Il faut faire en sorte que nos institutions et nos salles de spectacle puissent leur permettre de s'intégrer facilement. C'est un texte de Jonathan Gay pour le Journal de Montréal. Des membres de la communauté sourde viennent d'aussi loin que Saint-Jérôme pour participer aux activités organisées à la bibliothèque Le Prévost depuis l'embauche de Marc-André Bernier, le premier bibliothécaire sourd du Québec. Ces deux dernières années, le nombre de personnes sourdes et malentendantes fréquentant la bibliothèque Le Prévost a bondi de 320. Aidé d'un interprète, le bibliothécaire Marc-André Bernier a expliqué au journal 24 heures comment son travail permet aux personnes sourdes de lire davantage et ainsi d'améliorer leurs compétences en français. Il explique « Avant, il y avait un mythe dans la communauté. Les gens croyaient que les livres sont réservés aux savants. Ils ne savaient pas que ceux-ci sont pour tout le monde et que la bibliothèque offre de nombreux services. » Une proportion importante d'adultes sourds sont analphabètes fonctionnels, puisqu'ils utilisent surtout la langue des signes québécois, LSQ, et lisent moins souvent le français. M. Bernier poursuit en disant « Puisque je maîtrise la LSQ, je peux leur suggérer des livres appropriés à leur niveau de français, ce qui leur permet de s'améliorer tout en développant un goût pour la lecture. » Villeray-Saint-Michel Parc Extension compte beaucoup de membres de la communauté sourde puisqu'on y retrouve notamment la Maison des sourds, le Centre des loisirs des sourds de Montréal, l'école primaire Gadebois et l'école secondaire Lucien-Pagé qui comptent des programmes pour jeunes sourds. Or, avant l'embauche de M. Bernier, il n'y avait peu de liens établis entre ces organisations et la bibliothèque Le Prévost. Aucun membre du personnel ne connaissait la LSQ et très peu de sourds fréquentaient les services offerts. Par exemple, on a maintenant un service d'interprétation pour l'heure du compte. Les jeunes sourds participent aux activités de la bibliothèque, indique M. Bernier. Afin de mieux rejoindre la communauté, Marc-André Bernier est régulièrement dépêché dans différents organismes afin de faire la promotion des services de bibliothèque, une excellente initiative qu'on félicite ici. Chez Canal M, c'était un texte de Marie-Christine Trottier pour le Journal de Montréal. On se transporte maintenant en France. Anne Hidalgo et son adjoint en charge du handicap Bernard Jomier présenteront au prochain Conseil de Paris leur engagement en faveur de l'accessibilité universelle. Leur objectif, assurer l'égalité réelle entre les Parisiens, qu'ils soient ou non en situation de handicap d'ici 2022. Le budget annuel consacré à ce secteur a plus que triplé, atteignant en 2015 331 millions d'euros. Monsieur Jomier souligne « Si Paris s'est pleinement saisi de cette question, les efforts à fournir restent importants. Cette politique ambitieuse en faveur des personnes en situation de handicap doit donc se poursuivre et s'accélérer. Dans le cadre du futur schéma départemental 2017-2022, l'élu annonce une série de mesures complémentaires. Elle vise à faire de Paris une ville exemplaire à l'échelle mondiale, notamment en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Le plan se décline en 7 points. Le premier, priorité aux enfants autistes. Les enfants parisiens autistes se verront offrir une solution de prise en charge à proximité de leur domicile. Encore malheureusement trop déficitaire, la prise en charge des enfants autistes est un chantier qu'on dit prioritaire car les parents ne devraient plus être contraints de se tourner vers la Belgique. D'ici 2020, 353 places pour les enfants autistes seront ouvertes et ce mouvement s'amplifiera. Un volet handicap dans chaque projet qui devra être intégré dans une analyse des besoins des personnes en situation de handicap et qui garantirait l'accessibilité universelle du programme, c'est le numéro 2. Numéro 3, 1800 équipements recevant du public aménagé dans le cadre d'un agenda d'accessibilité programmé qui sera présenté d'ici le 1er octobre. et des ambassadeurs de l'accessibilité vont être créés. Numéro 4, l'amélioration des délais de traitement des dossiers des MDMH, qui est le Maison départementale des personnes handicapées, des places pour les adultes handicapés dans des logements et finalement des meilleures conditions pour l'accueil des enfants handicapés. En terminant, une petite nouvelle, l'Association sportive des aveugles du Québec est à la recherche de 4 jeunes femmes pour compléter son équipe de goalball. Si ça vous intéresse, les pratiques ont lieu les dimanches entre midi et 15h30. C'était tout pour le bulletin du handicap. Aujourd'hui, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles à canalem@visezvu.com. Merci beaucoup. À demain.